Tamani, voici nos informations en français.
18h à Bourem, c'est dans la région de Gao. Mesdames et messieurs, bonsoir, voici les titres de ce journal. Les assises nationales de la refondation se tiendront entre le 22 novembre et le 26 décembre 2021, a annoncé le ministère de la refondation de l'État. La nécessité de ces concertations nationales divise fortement la classe politique et la société civile. Lutte contre l'ascendance, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme ordonne l'ouverture d'enquêtes sur les conflits liés à cette pratique. Une décision courageuse selon les organisations de défense des droits humains. Le gouvernement du Mali entend faire de l'industrie extractive le moteur du développement durable. Déclaration faite hier par le Premier ministre à l'ouverture de la 9e édition des journées minières et pétrolières du Mali. À la prise en compte du journal Hamsitou Touré, à la mise en onde Nouhoum Djiré. Les dates des assises nationales de la refondation sont fixées entre le 22 novembre et le 26 décembre 2021. L'annonce a été faite hier par le ministère de la refondation de l'État au cours d'une rencontre sur la refondation de l'État. La classe politique reste divisée sur l'opportunité de ces assises. Pour certains partis politiques, elles sont la seule voie pour refonder le Mali, alors que d'autres estiment qu'elles ne visent qu'à prolonger la durée de la transition. Plus de précisions avec Aïssata Diarra.
Au ministère de la Refondation de l'État, on affirme que ces assises vont permettre de résoudre les maux du Mali et restaurer les valeurs ancestrales et culturelles. Oumar Kone, représentant du ministère de la Refondation de l'État.
Les assises là sont capitales, si j'ose dire, pour le Mali. Ça permettra de repenser le Mali. Les dates sont fixées. Donc, au niveau local, donc quand je dis local, c'est la commune Le Cercle. Ça devrait commencer normalement le 22 novembre de ce mois. Et au niveau national, c'est à partir du 20 décembre.
Plusieurs partis annoncent leur non-participation à ces discussions. Parmi eux, le Parti social-démocrate africain PSDA. Son président Ismaël Sako qualifie ces assises d'inutile.
Les assises de refondation sont encore une fois de plus une poudre aux yeux des Maliens parce que nous pouvons faire l'économie des moyens, l'économie du temps en prenant l'ensemble des résolutions des différents forats des 10 dernières années, faire une synthèse et traiter les plaies du Mali.
Pour le M5-RFP, soutien des autorités de la transition, c'est l'avenir du pays qui sera discuté au cours de ces assises. Jamil Bitar, porte-parole du M5-RFP.
C'est des dates qui sont tenables, c'est la volonté de tout un chacun. L'ensemble des populations, des acteurs qui vont participer doivent se concerter en amont et venir avec des propositions concrètes pour la refondation du pays.
Selon le Premier ministre, c'est à l'issue de ces assises qu'un calendrier électoral sera élaboré.
Sur le même sujet, pour Dr Adama Traoré, président de la coordination des associations du regroupement de la société civile CARSOC, la polémique du temps concernant les assises nationales et la refondation est secondaire. Le plus important reste la vie de la nation. Dr Adama Traoré, président de la coordination des associations et regroupement de la société civile CARSOC, est joint par Aïssata Diarra.
Ces assises, telles que prévues, si ça se passe comme on l'entend, ça veut dire si ça va aboutir à la cohésion sociale, à lutter contre l'insécurité, c'est à préparer des élections crédibles. Ce n'est pas un problème de temps, c'est une préoccupe, c'est une situation bien faite. C'est notre vision en tant que société civile et c'est ça qui motive notre participation dans ces débats-là. On va passer aux assises, sans tenir compte de temps. On a le temps matériel pour mettre ça en œuvre. Pour nous, il y a trop de dispersions d'esprit ciel, c'est bon. Chacun vient avec son opinion. Pour nos sociétés civiles, c'est la vie de cette nation qui vit dans la précarité totale, l'insécurité qui a gagné partout. Il faut l'histoire qu'on puisse s'asseoir en face, regarder ce qui est bon pour notre pays et qu'ensemble, on puisse unir nos efforts dans ce sens-là.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Suite à une dénonciation d'une tentative d'enlèvement contre le président du parti CODEM, Ousseini Amiongindo, à son domicile le jeudi 11 novembre dernier, le ministre en charge de la justice a instruit le procureur général près de la cour d'appel de Bamako l'ouverture d'une enquête. Toutefois, le ministre fait remarquer qu'il n'a eu connaissance d'aucune plainte concernant cette affaire qui circule sur les réseaux sociaux. Les groupes armés continuent de s'aimer la terreur au centre du pays. À Massina, dans la région de Ségou, un élu communal de Monimpé-Bougou a été assassiné chez lui ce lundi 15 novembre 2021. Au moins une trentaine d'hectares de champs de riz ont été incendiés par des groupes armés dans le cercle de Niono. Ainsi, l'armée malienne affirme avoir procédé hier à des frappes aériennes dans certaines localités du centre. Au même moment, le premier ministre rassure que la lutte contre le terrorisme sera gagnée. Les détails avec Arkea Touré.
Environ 35 hectares de récolte détruites pour la seule journée d'hier dans le village de B5, dans la commune de Touridagako, dans le secteur de Niono. Les sources locales affirment que dans la nuit du lundi à mardi, les assaillants ont mis le feu dans tout l'état de gerbier isolé dans les champs du village. À quelques kilomètres de Niono, dans les secteurs de Massina, dans la zone office du Niger de Kolongo, un champ de riz a aussi été incendié hier mardi par des inconnus. Une situation qui inquiète les populations locales qui voient l'essentiel de leur récolte partir en fumée. Elles interpellent les autorités pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Un jour plus tôt, le deuxième adjoint du maire de Monimpé-Bougou a été retrouvé mort chez lui dans le village de Bingo. Les autorités locales indiquent qu'il a été tué par des hommes armés non identifiés. Ces incidents se succèdent alors que les forces armées maliennes annoncent les frappes aériennes dans les localités de Maribougou et Soya dans le cercle de Djenné. Une nouvelle confirmation par les sources locales, mais indique quand même être toujours sous occupation djihadiste. Du côté du gouvernement, le premier ministre Choguel Kokala Maïga promet que la lutte contre le terrorisme sera gagnée par le peuple du Sahel. C'était en marge des journées minières et pétrolières.
Autre sujet, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a donné jeudi dernier l'ouverture des enquêtes sur les conflits liés à la pratique de l'esclavage par ascendance. Dans une lettre circulaire, le garde des Sceaux ordonne aux procureurs généraux de la Cour d'appel d'engager des poursuites pénales contre toute personne en lien avec la pratique de l'esclavage par ascendance au Mali. Les détails avec Lala Aïcha Walet.
Dans sa lettre circulaire, le ministre de la Justice note que l'esclavage par ascendance est dénoncé dans tous les rapports des organisations de défense des droits de l'homme. Ainsi, il donne des instructions aux procureurs généraux de prendre toutes les dispositions appropriées de lutter contre les conflits en lien avec l'esclavage sous toutes ses formes. Mamadou Kassogué demande à la chaîne pénale de communiquer autour de ces instructions pour qu'elles soient connues et respectées par tous. C'est là, dans le but d'anticiper les mesures d'assistance et de sauvegarde contre les phénomènes et ses effets sur les personnes qui en sont la cible. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, qualifie cette décision du ministre de courageuse. Selon son président Aguibou Boiré, c'est le fruit d'un combat de longue haleine des organisations des droits de l'homme, particulièrement celle dédiée à la lutte contre l'esclavage par ascendance. Cependant, il recommande une commission de suivi de la bonne mise en œuvre de la lettre circulaire du ministre.
Je l'annonçais dans les titres, le gouvernement veut renforcer et promouvoir le rôle et la place des ressources minières et énergétiques en tant que créateurs d'emplois, de richesses et de croissance. Cette déclaration a été faite par le premier ministre Choguel Kokala Maïga à l'ouverture des journées minières et pétrolières du Mali. Ces journées ont débuté hier mardi à Bamako. Initiées en 2005, elles ont pour objectif de faire la promotion des mines et du pétrole. Adam Amadou Aïdara.
Les secteurs miniers et pétroliers notamment ont été impactés par la crise sécuritaire dans le pays depuis 2012, a déclaré Choguel Kokala Maïga. Le premier ministre s'est dit convaincu que les problématiques de la gestion des ressources minières et l'insécurité seront discutées au cours de ces journées. Selon lui, le gouvernement veut créer les conditions d'émergence de l'économie malienne à travers ces secteurs. Dr Choguel Kokala Maïga.
En somme, faire de l'industrie extractive le moteur du développement durable. Les menaces contre la paix et la sécurité ont quasiment donné un coup d'arrêt à la recherche pétrolière dans les bassins sédimentaires situés dans le septentrion de notre pays.
Le président de l'Hydroma INC, société d'exploitation d'hydrogène, affirme que le Mali peut être la première économie décarbonée du continent. Il affirme qu'il faut donner un peu plus d'importance aux projets d'exploration et de production de l'hydrogène naturel au Mali. Aliou Diallo, président de l'Hydroma INC.
Nous avons la chance d'en avoir et c'est important qu'on comprenne l'importance des enjeux et que cet hydrogène naturel et l'hydrogène vert que nous pouvons produire au Mali sur la base d'éolien et du solaire peut permettre au Mali d'être la première économie décarbonée du continent et même être le premier fournisseur des pays européens.
Il faut noter que ces journées minières et pétrolières vont se poursuivre jusqu'au 18 novembre prochain.
Un reportage de Hawa Berthe avec la voix de Adama Amadou Haïdara. Sport, les 10 pays africains qualifiés pour les matchs de barrage de la Coupe du Monde sont désormais connus. Le tirage au sort aura lieu le 18 décembre prochain à Qatar. Les aigles du Mali logés dans le chapeau B pourraient avoir comme adversaire l'un des pays du chapeau A. Il s'agit notamment du Sénégal, de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc ou encore du Nigeria. À noter que parmi les nations qualifiées pour les barrages, le Mali est le seul pays qui n'a jamais participé à une phase finale de Coupe du Monde.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
À présent, un tour en région. Les écoles fondamentales de Sikasso ont repris les cours lundi dernier. Les enseignants ont suspendu leur mot d'ordre de grève. Ils ont aussi mis fin à la mesure qui consistait à ne pas dispenser les cours dans une classe de plus de 50 élèves. Les propositions de passage des élèves ont été remises aux autorités scolaires. Élèves et parents d'élèves ont accueilli avec joie cette décision des enseignants. Nous recevons à présent Mouamadou Touré pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Mouamadou.
Bonsoir Amsetou Gogo Touré.
Quel est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui?
Organisation des Assises Nationales sur la Refondation. Qu'est-ce qui est fait? C'est le thème du débat de ce soir. Et nos invités sont Noum Sarr du parti FAD, membre du Conseil National de Transition, Bakabini Keïta, directeur de l'Observatoire du Pouvoir et de la Société, Amidou Doumbia du parti ILMA et Salia Traoré de la Coalition pour l'Observatoire citoyenne des élections au Mali, COSEM.
Merci Mouamadou et bon débat. C'est la fin de ce journal, mais restez à l'écoute dans un instant. La question A. La journée africaine des statistiques est célébrée chaque 18 novembre. À cette occasion, la rédaction s'est intéressée au fonctionnement de l'Institut national des statistiques, INSTAT, un établissement public à caractère scientifique qui fournit des données et des statistiques sur plusieurs plan. Il a été créé en mars 2009. Entre difficultés d'accès aux données, problèmes financiers, la structure fait face à d'énormes difficultés. Selon les responsables, Haruna Sougane est le directeur général de l'Institut national de la statistique.
L'Institut est chargé de réaliser des enquêtes et des recensements démographiques et économiques aussi. Coordonner l'ensemble des activités statistiques afin de mettre à la disposition des utilisateurs des données de qualité, mais aussi vraiment des éléments de langage pour l'élaboration, le suivi de la mise en œuvre et même l'évaluation des politiques et stratégies de développement du pays, mais aussi à la disposition du secteur privé, et des partenaires techniques et financiers et même de la société civile, vraiment pour que les décisions soient prises sur la base des données chiffrées.
Quelle méthodologie utilisez-vous pour la réalisation des enquêtes et études au sein de l'INSTAT?
Que ce soit des enquêtes auprès des ménages ou auprès d'autres entités comme les entreprises, que ce soit les recensements, nous nous inscrivons dans les méthodologies et les normes internationalement reconnues et validées par le système statistique mondial. Au niveau de l'Institut, c'est beaucoup plus les méthodes quantitatives que nous utilisons pour la collecte de nos données.
Pouvez-vous nous parler des efforts visant à mettre à jour vos données statistiques?
C'est d'actualiser ou de réaliser de façon permanente certaines opérations statistiques. Par exemple, dans le cadre du suivi de la conjoncture. Donc, c'est nous qui sommes chargés de suivre la conjoncture. Donc, chaque mois, nous faisons un certain nombre de collectes des prix au marché afin de pouvoir évaluer l'inflation, c'est-à-dire l'évolution des prix des produits les plus utilisés. Nous collectons aussi des informations auprès des structures du ministère de l'Économie et des Finances et aussi auprès des entreprises. Nous réalisons aussi des opérations d'envergure nationale, comme l'enquête modulaire permanente auprès des ménages, le recensement général de la première de l'habitat.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus souvent dans la réalisation des enquêtes et études statistiques?
La statistique, c'est un domaine où les besoins sont énormes parce que la statistique vraiment coûte extrêmement cher. Donc, et les activités statistiques aussi doivent se réaliser avec un planning bien élaboré et bien calé, mais aussi les prévisibilités. La statistique aussi, c'est un domaine qui demande vraiment des spécialistes, non seulement des statisticiens qui sont formés dans les écoles de statistique, mais aussi des jeunes qui ont quand même une certaine formation dans le domaine. Et malheureusement, le pays n'en dispose pas beaucoup. Une autre difficulté, c'est la compréhension même de notre rôle au sein de la société. Les gens n'ont pas compris qu'ils sont à la fois fournisseurs de données et utilisateurs de données. Fournisseurs de données dans le sens où c'est vers eux que nous allons pour prendre des renseignements. On fait face à la réticence de la population, mais pour les entreprises, c'est encore pire. Pour la population, nous essayons quand même de passer par les médias et par les leaders communautaires. Mais même là, même si souvent certains répondent, mais en nous donnant des mauvaises réponses. Or, si nous avons des mauvaises réponses, ça veut dire que nous allons avoir des données de qualité pas bonnes.
On a remarqué que très souvent, les statistiques ne sont pas à jour. Pourquoi cela?
Ce sont les conséquences des difficultés que j'ai évoquées tantôt. Bon, mais il faut reconnaître quand même que ces dernières années, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour mettre les statistiques à jour.